Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Marc Fesneau, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne.
Bonjour Marc Fesneau.
Bonjour.
La vaccination, le risque de reconfinement, les LR, Zemmour, la place du MoDem dans la Macronie également avec la campagne qui s'annonce. Commençons Marc Fesneau par le Covid. Des spécialistes conseillent de réduire les contacts avec les fêtes de Noël qui arrivent. Quelle est la position au gouvernement ?
La position du gouvernement, elle est simple et elle est double au fond. La première chose, c'est de respecter les gestes barrières. Et c'est vrai qu'on a pu avoir tendance, les uns et les autres, hein, il faut jeter la pierre à personne, à relâcher un peu ce qui était des gestes du quotidien, des habitudes qui avaient été prises, à la fois en termes d'hygiène, de se laver les mains ou de passer du gel hydroalcoolique, de ne pas se rassembler.
Vous en avez devant vous.
Hein, j'en ai devant moi.
Il y a un masque et puis on est séparés, on est à distance et on a un purificateur d'air.
En tout cas, il faut qu'on fasse attention les uns et les autres aux gestes. Et donc, c'est pour éviter effectivement les contacts. On sait que c'est une maladie qui est contagieuse par les contacts. Et plus on est démasqué, proche, dans des ensembles confinés, plus on prend de risques. Et donc, il faut effectivement qu'on fasse ça. Puis la deuxième chose, la partie de la stratégie qui est la nôtre, c'est la question de la vaccination. On voit bien que la vaccination, elle a pour effet, d'ailleurs comme pour la grippe, non pas d'empêcher d'être contaminé, mais elle a pour effet de faire en sorte que les symptômes soient les moins importants possibles, parce qu'on sait que dans cette maladie, au-delà de ce que ça produit chez ceux qui sont touchés, ça produit aussi des effets d'engorgement des urgences ou des services hospitaliers. C'est ça qu'il faut éviter. Et donc, il y a la stratégie de gestes barrières qu'il faut continuer à prolonger et sur lesquels il faut être vigilant, surtout qu'on rentre dans une saison où on n'est plus chez soi à l'intérieur.
Bon, mais on ne va pas aller jusqu'à reconfiner quand même, si.
Mais ce n'est pas l'objectif. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit à la fois le Premier ministre, et ce qu'ont dit le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Santé. L'objectif des mesures qui sont prises, c'est d'éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle sont d'ailleurs certains pays aujourd'hui, qui sont des situations de reconfinement. Et puis on a deux sujets, au fond. Ouais. On est dans une vague qui est une vague du variant Delta.
Ouais.
C'est une vague d'un variant qu'on connaît, d'un virus qu'on connaît, couvert par les vaccins qu'on connaît. Et puis les interrogations qui sont légitimes et que les auditeurs ont sans doute, qui sont les interrogations sur le Omicron, qui est un nouveau variant, qu'on est en train d'expertiser, à la fois dans son degré de contagiosité. Est-ce qu'il est plus contagieux que le Delta ? Manifestement oui, mais à quel degré ? Et donc, est-ce qu'il peut dominer sur le Delta ? Deux, est-ce qu'il est plus dangereux ? C'est-à-dire, est-ce qu'il produit des symptômes qui sont plus forts ? Si c'est moins, c'est un autre sujet. Et par ailleurs, est-ce qu'il est couvert par les vaccins tels qu'ils sont ? Et donc ça, c'est le moment dans lequel nous sommes. Les précautions que nous prenons avec ceux qui viennent de pays qui sont manifestement avec une première influence de Omicron. Et dans les 10-15 jours, on aura des réponses scientifiques à ces sujets scientifiques.
Mais ce qui veut dire que pour les fêtes de Noël, il pourrait y avoir des recommandations très fortes de ne pas faire des fêtes de famille ?
Non, vous n'avez pas entendu ça.
Je vous pose des questions parce que quand on aura les résultats...
Vous avez raison de me poser des questions. Sur la table aujourd'hui, c'est la vaccination, le rappel vaccinal, les gestes barrières.
Oui.
Et c'est, si on se tient à ça, on peut sans doute passer cette...
Bon, mais est-ce qu'on est en ordre de marche pour la vaccination, alors ? Pour la troisième dose ? Parce que là, il y en a certains qui prennent des rendez-vous et ils ont rendez-vous au mois de mars.
Je ne veux pas être désobligeant avec vous, mais j'ai l'impression d'entendre le discours qu'on entendait il y a exactement un an, c'est on n'est pas prêt pour la première dose, on n'est pas prêt pour la deuxième dose, on n'est pas prêt pour la troisième dose. Donc maintenant, on a été globalement prêt.
Oui.
Globalement, on est le pays qui a le plus vacciné et qui a mis en œuvre une stratégie vaccinale, d'ailleurs pas que le gouvernement, pas que l'État, avec les collectivités locales. Donc on ne va pas se faire peur ou s'inquiéter ou à chaque pas donner des fouets en disant que ça ne marche pas,
oui,
ça ne marche pas.
Tout on va de même. Être prêt. Non mais d'accord, mais on tout de même, Marc Fesneau, vous dites, c'est la vaccination, on va être prêt. Mais quand
on
même,
était à 4 millions de gens vaccinés, troisième dose, il y a 15 jours, on est aujourd'hui à 8 millions. Il y a 3 millions de doses qui ont été commandées par les médecins de ville, ou 3 ou 4 millions, je ne sais plus, pour faire en sorte que les gens puissent se vacciner chez leur médecin. On va trouver des solutions et on trouvera des solutions comme on les a trouvées dans la...
Mais on ne les a pas encore aujourd'hui, Marc Fesneau, ça. On n'a pas encore les solutions. Quand des gens vont sur Doctolib ou autre et pour demander un rendez-vous et qu'ils n'ont que la mi-mars...
Vous savez très bien comment
c'est ce qui se produit aujourd'hui.
Vous savez très bien comment ça s'est passé la dernière fois. Il pouvait y avoir des moments qui étaient éloignés en termes de vaccination et de doses. Et puis au fur et à mesure, des créneaux se sont relibérés, les gens ont pu y aller. Donc inutile de se faire peur et de dire qu'on n'est pas prêt alors qu'on est prêt. On a développé, grâce d'ailleurs à la mobilisation des médecins, des services de santé, de l'État, des collectivités, quelque chose qui est formidable dans ce pays, c'est qu'on a réussi à vacciner de masse. Et donc on sera au rendez-vous de la vaccination ou du rappel de masse.
Oui. Bon, est-ce que le pass sanitaire est toujours utile aussi dans ces conditions et d'ailleurs la CNIL a fait en fait hier...
La CNIL, elle dit le droit et elle dit les précautions qu'il faut avoir. Donc la question du pass sanitaire est une question de droit et elle a été résolue déjà et on répondra sans doute aux questions de la CNIL. Après, est-ce qu'il est utile ? Oui, d'ailleurs, je précise que là aussi, on nous avait expliqué expliqué qu'on prenait une mesure qui était iconoclaste, que c'était incroyable de faire ça, c'était au mois de juillet, et au fond, une ribambelle de pays nous ont suivis dans cette affaire de pass sanitaire. Le pass sanitaire, il permet aussi, quand on est dans des endroits qui sont un peu confinés, quand on va dans des restaurants, d'essayer de limiter au maximum les contaminations.
Mais la CNIL dit, en même temps, le gouvernement n'a pas transmis des données permettant de prouver l'efficacité ou pas du pass sanitaire.
Ben on transmettra, j'imagine, c'est pas moi qui suis en charge de ces questions, mais on transmettra les données nécessaires. En tout cas, ce que je constate, c'est que nous sommes le pays qui a le plus vacciné d'Europe, quasiment.
Quasiment, oui. 90% en fait, pour des adultes.
Sans doute que le pass sanitaire n'est pas, étranger à cette question-là. Voilà. Et par ailleurs, nous sommes...
Bon, c'est
dans
votre
cette
avis,
phase
Oui.
J'ai pas dit que tout allait bien, mais nous sommes dans cette phase épidémique, ceux qui sont aujourd'hui et à date les moins touchés.
Bon, vous êtes ministre en charge des relations avec le Parlement. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin, en cette fin d'année, d'un débat justement dans les assemblées, à l'Assemblée nationale, sur la situation entre le nouveau variant qui arrive, la question en fait sur le pass sanitaire. On n'est pas en vacances dans les assemblées.
Vous le savez qu'on n'est pas en vacances, parce que vous savez le travail qu'ils font sur un certain nombre de textes. Pardon de vous dire deux choses. La première, c'est qu'il y a 15 jours, ou il y a 3 semaines, il y a un texte qui a été débattu sur la question du pass sanitaire, sur la question de la situation sanitaire. D'ailleurs, à l'époque, ceux qui aujourd'hui nous disent « qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on va y arriver ?» etc., nous expliquaient qu'il fallait complètement relâcher la bride et qu'au fond, c'était bizarre de continuer à avoir des mesures comme celles que nous avons mises en œuvre. Deux, les questions au gouvernement, la convocation des ministres devant les commissions. Toutes formes de choses sont possibles. Le Premier ministre a réuni il y a 8 jours les groupes parlementaires pour leur faire état des mesures qui allaient être annoncées par le ministre de la Santé. Donc le travail se poursuit, le contrôle de Parlement s'exerce. Pas besoin d'un grand débat, comment dirais-je, théâtral.
Pourquoi pas besoin pas C'est la démocratie
Mais vous croyez que quand on va en commission et qu'un ministre va en commission, c'est pas la démocratie
Vous croyez que la même chose quand il y a un vote
Non, mais un vote sur quoi
Je ne sais pas, c'est à vous de poser peut-être en fait une
le
question.
Le vote a eu lieu il y a 3 semaines sur le texte.
Le pass sanitaire prolongé.
L'action des parlementaires, c'est une action de voter la loi, mais heureusement pas seulement de voter la loi, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Contrôler l'action du gouvernement, ça se fait dans les commissions, ça se fait aux questions au gouvernement, ça se fait dans les interrogations que portent légitimement les présidents de groupe à l'Assemblée, au Sénat, et je vous prie de croire, ils n'ont pas forcément d'une grande bienveillance avec nous, auprès du Premier ministre. C'est comme ça que ça marche une démocratie. Les grandes démocraties parlementaires, l'essentiel du travail est un travail de contrôle et pas de vote, de vote, de vote, de vote. Le contrôle, c'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe, comment on ajuste. Et à chaque
contrôle
fois...
Contrôle et débat.
Oui.
Par exemple, la question de l'obligation vaccinale qui est remise sur la table par l'Europe hier, ces derniers jours. Est-ce que là, il ne faudrait pas en débattre
Ça n'est pas le choix que nous avons fait. Excusez-moi de vous dire que dans le débat sur le pass sanitaire, un certain nombre de groupes avaient proposé l'obligation vaccinale. Ça n'est pas le choix que nous avons fait. Et sans doute la question reviendra sur le tapis. Mais quand vous êtes, aujourd'hui la question est plutôt le rappel vaccinal, quand vous êtes à ce très haut taux de vaccination, c'est déjà un effort fabuleux qui a été fait par les Français, avec l'effort de ceux qui ont permis la vaccination, et c'est plutôt vers ça qu'il faut se concentrer.
Bon, venons-en à la campagne Marc Fesneau. Les parrainages d'élus pour être candidat à la présidentielle, est-ce qu'ils doivent rester publics? Est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est ce que demandent certains candidats qui n'ont pas leur parrainage, est-ce qu'il ne ferait pas changer un peu ça, les règles
Je veux bien qu'on réfléchisse à toutes les règles, y compris celle-là. D'ailleurs, certains me remettent même en cause le principe même des parrainages. Certains disent qu'il ne faut pas que ce soit des parrainages d'élus, il faut que ce soit des parrainages citoyens. Seule chose que je trouve dommage, c'est de changer les règles au moment où on est entré déjà sur le terrain de jeu.
Ah ben non, mais attendez, certains le réclament depuis longtemps. Marine Le Pen notamment.
Oui, et au fond, quand vous regardez, qui a été privé de parrainage ces dernières années? Personne.
Oui, avec quand même avec des difficultés visiblement.
Mais c'est toujours la même grande peur, et je pense, et c'est normal, que les grands courants d'opinion soient représentés, de l'échiquier politique soit représenté à la présidentielle, et je n'ai pas sous les yeux d'exemple avéré de candidat qui n'ait pas pu être candidat parce qu'il lui manquait les parrainages. Alors après, il faut aussi qu'on ait un mécanisme de régulation. La présidentielle, ce n'est pas pour avoir 35 candidats.
Bon. Vous êtes le représentant aussi du Modem. Vous êtes l'un des hommes forts de M. Bayrou. Est-ce que le Modem ne va pas être complètement avalé par la nouvelle maison commune? L'ensemble citoyen est dominé probablement par Édouard Philippe.
Dominé par personne, puisque c'est un...
Attendez, c'est Édouard Philippe, il annonce sa couleur quand même, non?
Non, la couleur qui a été annoncée... D'abord, je voudrais vous signaler que l'initiative revient côté Modem à François Bayrou, côté La République En Marche à Richard Ferrand. Donc c'est dès là qu'est venue cette idée de consolider, dans la majorité, le rassemblement et le dépassement. Deuxième élément, c'est une volonté à la fois d'approfondissement de ce qu'est l'espace central, plutôt République En Marche et Modem, et puis la capacité sur les latéralités, si vous me permettez cette expression, Horizon côté, par exemple, Édouard Philippe, à rassembler la majorité. Donc le Modem, il n'y a aucune crainte d'absorption. Vous savez, on en a vécu pas mal avec François Bayrou. Donc on est assez rompu à l'exercice, on n'a jamais plié devant quoi que ce soit, y compris des gens qui voulaient au fond notre disparition. Là, ce n'est pas pour faire disparaître, au contraire, c'est pour faire apparaître ce qu'est cet espace central. Et donc, j'ai aucune crainte de cette nature, mais vraiment aucune crainte.
Oui. Du côté des LR, on connaîtra les deux finalistes
cet après-midi.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu beaucoup plus d'adhérents, que finalement, il y a une remobilisation autour des Républicains aujourd'hui?
Difficile à dire comme ça. En tout cas, je constate qu'il y a eu des débats, mais je n'ai pas à juger, même si je peux. Après, on aura un débat avec le candidat ou la candidate qui sera choisie. Peut-être un peu polarisé sur un seul sujet du fait de l'émergence de M. Zemmour. Sans doute que c'est un moment toujours un peu militant et donc il y a un peu de remobilisation. On n'est quand même pas dans des étiages fous, mais qui sont des étiages de 120 000, je crois, votants, 130 000 votants. On verra ce que sera le choix des militants. D'abord, il faut respecter le choix des militants. Et moi, je ne suis pas de ceux qui viennent dénigrer les partis politiques. Je pense qu'on a besoin d'organisation politique dans la démocratie.
Oui, à propos d'Éric Zemmour que vous avez cité en fait à l'instant, le député communiste Fabien Roussel va défendre une résolution aujourd'hui pour inviter le gouvernement à envoyer une instruction aux magistrats pour mettre en œuvre une disposition, je cite, qui permettent au juge de rendre inéligible un homme politique pour des propos discriminatoires et quand il y a eu éventuellement condamnation. Qu'allez-vous faire de cette résolution?
Moi, je vais vous donner un avis personnel. Les groupes s'exprimeront là-dessus. Moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas comme ça qu'on combat les idées de quelqu'un comme Éric Zemmour. Je ne suis pas sûr que la solution, ça soit de lui interdire d'être dans le débat public. Moi, je pense qu'il faut délégitimer ce qu'il dit. Il faut pas l'empêcher en démocratie.
Il faut débattre, comme Bruno Le Maire. Il a raison, Bruno Le Maire, de débattre avec lui.
Évidemment qu'il a raison, parce que si jamais vous laissez simplement prospérer les idées de M. Zemmour sans les combattre autrement que par la voie de la justice, ça n'est pas à la justice de trancher les questions démocratiques.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des idées? Si les Français adhèrent à beaucoup de ces idées, quand même, d'Éric Zemmour dans les intentions de vote, c'est qu'il y a quand même une partie de vrai, probablement, dans ce qu'il dit, non?
Je sais pas
autour
si
des questions
vrai,
d'immigration,
non,
de sécurité.
Il y a sans doute des gens qui ont une perception comme celle d'Éric Zemmour. À nous de les convaincre du fait que le chemin qu'emprunte Éric Zemmour, c'est un chemin qui a toujours emmené au pire. Et au pire, sans doute, c'est souvent pour les plus fragiles. Et que je ne connais
pas. Il dit que si on ne prend pas son chemin, on ira vers le pire.
Je ne connais pas un pays qui se soit redressé, un pays qui est avancé par la bataille des communautés les unes contre les autres. Les hommes contre les femmes, les gens d'origine immigrée contre les autres, l'Europe contre le reste du monde, la France contre l'Europe. Ça n'existe pas. On ne sortira pas des difficultés qui sont les nôtres. Et le pays a été grand. La France a été grande quand la France s'est rassemblée et pas quand elle a nourri en son sein les divisions. Et donc, c'est ça qu'il faut combattre. Parce que c'est une espèce d'épopée. Je ne vais pas me faire donner des leçons de patriotisme par quelqu'un qui, en fait, lutte contre la patrie. Parce que quand vous êtes à ce point à faire la querelle entre les gens, vous faites du mal à la patrie. Moi,
un dernier mot, Marc Fesneau. Il y a un enseignant suspendu dans le Jura parce que il a été un peu critique avec l'éducation nationale, sa hiérarchie, sur l'organisation de la minute de silence de Samuel Paty. Est-ce qu'il devrait être réintégré?
Mais j'en sais rien, parce que je connais pas le dossier. J'en ai entendu parler sur vos ondes, effectivement. J'en sais rien, je connais pas le dossier. Manifestement, sur ce sujet-là, en tout cas sur le sujet de Samuel Paty, je pense que la grande vigilance que nous devons avoir, au-delà du cas particulier, c'est de faire en sorte que l'hommage soit rendu et qu'il n'y ait pas des gens qui finissent avec quelque chose qui a été très profondément marquant pour la communauté éducative et pour chacun d'entre nous.
Ouais. Un mot sur Nicolas Hulot. Il est temps de passer à autre chose, parce que là, on a l'impression que ça revient en permanence aussi, y compris au sein de la majorité.
Je ne veux pas rentrer dans le sujet particulier Nicolas Hulot, mais je pense qu'il n'est pas le temps de passer à autre chose de la libération de la parole.
Ouais.
Je pense qu'il faut que la parole, dans ces cas-là comme dans les autres, elle se libère, parce que ça serait trop facile. Qu'on passe d'un sujet, qu'on zappe un sujet profond dans une société comme la nôtre et comme dans beaucoup de sociétés, qui est au fond des femmes qui ont été sous la contrainte et l'écosystème a favorisé.
Mais Emmanuel Macron, l'écosystème dont le milieu politique faisait partie, quoi, bien sûr, quoi.
Donc on a besoin de libérer et de laisser se libérer la parole, et en même temps, ce n'est pas sur les ondes que se traitent des questions qui, au bout, sont des questions de justice.
Bah oui, mais alors la justice n'était pas saisie en l'occurrence dans ces affaires.
C'est pour ça que je vous dis ça. Je dis, il faut que cette parole se libère et que au fond la peur ou la crainte change de camp. De rive, et qu'on soit toujours attentif, y compris quand ce sont des puissants qui sont visés, à la parole d'une victime ou de quelqu'un qui se considère comme victime et qui dit « Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire ». C'est ça qu'il faut. C'est la parole libérée, c'est aussi l'écoute libérée. C'est au fond que on fasse attention à des gens qui vous disent « J'ai quelque chose à vous dire, ça vous paraît fou, mais j'ai quelque chose à vous dire ». Et après, c'est à la justice de faire son travail. Ça n'est pas à moi et ça n'est pas à vous.
Merci Marc Fesneau, ministre délégué en charge des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne d'avoir été ce matin invité de Sud Radio.
Et à 8h34 dans un instant, la revue de presse juste après le journal. À tout de suite.